tous les samedis, de midi à 13h. Sophie Davant sur M Radio.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui celui que Marianne James surnommait la tortue il y a presque 20 ans. Depuis, il a fait du chemin, quoi. Vous ne supportez pas ça?
Non, mais je ne réalise pas à chaque fois le temps qui passe.
C'est Christophe Willem qui est mon invité. Vous avez reconnu sa voix qui s'impose entre mille puisqu'elle peut recouvrir à elle seule 3 octaves. Christophe révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star. Il n'a quand même décroché que des votes bleus tout au long du concours. 4 albums à son actif, comptant plus d'1,5 million de ventes, un parcours remarquable. Il a pris un petit peu de recul pendant 5 ans et il revient en cette rentrée 2022 avec un tout nouvel album, Panorama, qui répond à une période difficile de doute. Vous vous êtes remis en question, vous vous êtes même demandé si vous n'alliez pas arrêter ce métier.
Oui, c'est vrai que l'album Panorama, en fait, il a vu le jour un peu sur les vestiges du précédent qui s'appelait Rio. Rio, c'est un album que j'ai un peu porté à bout de bras parce que c'est un album qui a eu vachement de mal à trouver son public. Alors heureusement, la tournée de l'album Rio, pour le coup, s'est très bien passée, mais c'est vrai qu'arrivé à la fin de la tournée, j'avais vraiment besoin de souffler, de me poser un peu et puis surtout faire un peu un état des lieux d'où j'en étais un peu dans ma vie, dans mon métier, dans ma carrière. Et puis cet état des lieux, il a été contraint et forcé parce qu'après on est tombé dans le confinement. Et en fait pour moi, cette période de break, elle a été assez salutaire parce que j'avais vraiment besoin un moment de me reconnecter à ma passion et de mettre un peu tous les paramètres de mon métier de côté. Pour le coup, c'est ce que j'ai fait et c'est sur cette trame-là que l'album Panorama a vu le jour.
Alors avec quand même une réflexion de se dire que l'amour du public ne répare pas toutes les blessures.
Oui, alors c'est vrai, ça je l'ai appris justement avec l'album Rio. C'est vrai que moi j'ai été pas mal persécutée, harcelée plus jeune à l'école. Et quand je me suis retrouvée à gagner cette émission La Nouvelle Star, l'amour du public du coup m'a énormément nourrie et portée. Et j'ai cru que ça avait compensé d'une certaine manière le manque d'amour propre. Parce qu'on ne peut pas vraiment se construire plus jeune quand vous êtes la cible d'attaque et quand votre personne est le problème. Pour le coup. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement qu'à l'échec de l'album Rio, qu'en fait, l'amour du public avait servi de substitut à un amour propre qui, lui, n'était pas du tout solide. Et j'avais vraiment, moi, besoin de me retrouver et de me reconstruire de ce côté-là pour justement arriver avec un nouvel album et recevoir l'amour du public pour ce qu'il est et pas simplement en être dépendant parce que ça venait combler un manque d'amour propre.
Donc, comme souvent, l'échec a été salutaire, alors a là, débouché vraiment. Sur une vraie remise en question.
Exactement. Là, vraiment, ça a été... Alors évidemment, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire ça après coup que pendant l'échec lui-même. Oui. Mais c'est ce que j'explique un petit peu aujourd'hui quand je parle de cette période-là. Parce que pour moi, l'album Rio, il est indissociable de Panorama, puisque les deux sont intimement liés. Mais c'est vrai que voilà, l'échec, de manière générale dans la vie, n'existe pas quand on en tire vraiment une leçon sur la vie en général. Donc ça a été très salutaire pour moi.
Alors, on reviendra sur l'actualité de cet album. Vous serez sur scène à la salle Playel.
Exactement.
Ce sera le 18 mars. Et puis, j'imagine qu'il y a une tournée qui s'annonce.
Oui, qui démarre début janvier. Enfin, je crois vers le 20 janvier à Forges-les-Eaux. Puis, ça continue aussi mars, avril. Après, il y aura quelques festivals l'été. Et je pense qu'on reprendra à partir de septembre pour une suite.
Alors, j'imagine que vous abordez tout ça avec gourmandise. D'autant plus que là, pour le coup, l'accueil de votre premier single a été formidable.
Vraiment.
On l'a entendu tout le temps, partout, cet été. PS, je t'aime. On va démarrer cette émission avec ce premier single.
Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi, tout ça, j'ai pas faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sème, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 Se dit des vérités dont ton corps
Sophie Davant reçoit Christophe Willem jusqu'à 13h sur M Radio.
Christophe Willem, on vient d'entendre le premier single de Panorama, votre album qui est sorti le 16 septembre dernier. On va revenir en détail sur les chansons, mais moi j'aime bien dans cette émission revenir carrément sur votre parcours,
très bien,
sur les rencontres essentielles qui l'ont jalonné. Alors Christophe, vous avez grandi en région parisienne, vous gardez quel souvenir de votre enfance ?
Tendre enfance, très bien, j'ai toujours été très curieux et l'envie de découvrir beaucoup de choses, donc je traînais beaucoup avec les personnes plus âgées que moi, j'aimais bien ça. L'adolescence, bon, plus compliquée quand même, hein. C'est un peu l'âge ingrat et... On va dire que vraiment, j'ai vraiment été victime d'harcèlement scolaire, de beaucoup de choses un peu lourdes durant l'adolescence, le collège. Le lycée, c'était un peu on souffle un peu. Voilà, on a un peu passé la mauvaise période. Mais sinon, voilà, j'ai une enfance plutôt, malgré ces petits traumas hein, que j'ai pu subir, plutôt calme.
Que faisaient vos parents ?
Auto-école, les deux. Auto-école était à mes parents et voilà, tous les deux étaient auto-école.
À quel moment la musique est vraiment entrée dans votre vie ?
Alors, plutôt très jeune, en fait, je crois aux alentours de 6 ans, c'est là que j'ai pris des cours de piano. Parce que mes parents, en fait, tout simplement cherchaient l'activité du mercredi après-midi, comme beaucoup de parents.
Ouais.
Et que très vite, ils ont constaté que mon corps avait un rejet du sport et donc que ce n'était pas compatible. Et donc, la musique s'est un peu imposée comme ça, par inadvertance, en fait. Mais j'ai un peu un profil comme ça. Vous voyez, je suis devenue chanteur avec La Nouvelle Star par inadvertance parce que c'est ma sœur aussi qui m'y inscrit. Donc, la musique est toujours venue un peu par inadvertance dans ma vie.
Vous vous projetiez comment, enfant ?
J'étais... c'est rare qu'on pose une question comme ça. Alors, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était décoration, architecture. Donc, très jeune, même j'allais chez mes parents, mes grands-parents, et je changeais de place les meubles. Je trouvais que la lumière était plus belle. Je voulais absolument changer les ampoules parce que je trouvais que les lumières n'étaient pas belles le soir. J'ai toujours été très axée sur l'esthétisme des choses.
C'est marrant parce que ça, c'est revenu pendant le confinement, justement, pendant que vous doutiez.
Oui.
Vous êtes dit, tiens, je vais peut-être changer de métier pour devenir architecte.
Ben parce que vous voyez, pour moi, l'architecture, la décoration, c'était un métier et la musique, c'était une passion. Donc, si vous voulez, pour moi, quand ma passion est devenue mon métier, il y a eu quand même un espèce de bug au niveau cérébral à me dire, mais c'est quand même très bizarre d'avoir son métier comme passion, en fait. C'était un peu... Enfin,
sa passion comme métier. Vous n'avez pas fait des études d'architecture ?
Parce qu'après, il y a eu la période du collège, où là, j'étais quand même vachement persécutée pendant cette période-là. Et quand je me suis retrouvée au lycée, j'ai découvert la communication en tant que matière dans les filières technologiques. Et en fait, je trouvais que cette matière, c'était passionnant. Et je me disais, voilà un métier qui peut être utile. J'aimais bien la logique d'être utile. Donc, j'ai voulu être à la fois prof ou psy, mais en réponse à mon histoire personnelle, en fait.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout orientée vers des études d'art plastique ou de choses comme ça.
Vous avez choisi France Gall, évidemment. Oui. Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est un titre qui m'a toujours énormément touchée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la voix de France Gall. Je ne sais pas si c'est le texte. Mais il y a une espèce d'alchimie dans ce titre. Et je trouve que surtout, il traverse le temps. Peu importe les arrangements, d'ailleurs, il traverse le temps et c'est un titre que j'ai beaucoup de plaisir à réécouter.
Et que vous devez interpréter très bien, d'ailleurs, avec votre voix à vous.
Et ben, je l'ai chanté une fois sur scène lors des Francofolies. Il y avait une carte blanche qui était donnée et j'avais fait une session avec Yvan Cassar sur les titres de Michel Berger et j'ai chanté France Gall, évidemment.
Ah ouais, ça ne m'étonne pas. On l'écoute, France Gall, c'est sur M Radio et c'est le choix de Christophe Willem.
Évidemment.
Ce samedi à midi, Sophie Davant reçoit Christophe Willem sur M Radio.
Et avec Christophe, nous parlons de Panorama, son dernier album dans lequel vous parlez de vous. Sylvie Vartan me disait il y a quelques mois à peine qu'elle ne comprenait pas pourquoi un tel engouement autour des artistes.
Moi, voilà. J'ai jamais été dans cette logique d'être fan. J'apprécie la musique, l'émotion, voilà, véhiculer des émotions. Quand j'ai fait ce métier au tout début, toutes les raisons pour lesquelles on m'a aimé sont toutes les raisons pour lesquelles on m'a persécuté plus jeune. Donc j'étais vraiment dans un truc assez bizarre dans la perception de ce métier.
Et c'est pour ça qu'on vous persécutait. Entre vous aviez une voix trop
aiguë.
Oui,
vous savez, moi j'avais une voix aiguë, j'étais efféminée, donc j'en parle dans l'album, dans des titres comme J'avance. Moi j'étais vraiment un petit peu le PD de service, si vous voulez, dans la récréation. Quand vous avez 11 ans, que vous n'avez fondamentalement aucune sexualité, c'est très violent d'être l'attaque, si vous voulez, d'une étiquette qu'on vous accole et qui en plus ne correspond pas pleinement à votre sexualité. Et c'est vrai qu'après, avec la notoriété, bon, j'ai vu cette entrée dans ce monde-là, un monde d'adultes, Et ma première question en interview quand je suis sortie de la Nouvelle Star, c'est alors est-ce que vous êtes gay ou pas ? Et donc très vite, je me suis dit bon, en fait, voilà, c'était un leurre de penser que ça serait mieux. Et c'est vrai que j'ai souvent lutté contre cette manière d'étiqueter les gens de manière systématique et surtout, en fait, sur la manière de ne pas entendre les réponses. Moi, j'ai toujours dit, depuis le plus ancien interview que j'ai pu faire, que pour moi, en fait, j'avais aucun problème et que j'aimais une personne. Une personne, ça veut dire c'est une fille ou un garçon, sans distinction aucune. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, parce qu'on parle de ça, vous le disiez tout à l'heure, c'était 2006-2005, par là, on est encore dans une société extrêmement hétéronormée, binaire, c'est ça ou ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, les langues se délient énormément. Il y a toute une nouvelle génération qui s'empare de ces sujets-là. Et aujourd'hui, voilà, on a bien compris que la vision de la sexualité de manière binaire comme ça est complètement dépassée et totale. Elle ne correspond plus du tout à ce qu'est la réalité de la sexualité des gens. Mmh. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours essayé de porter un peu ce message-là, cette logique un peu d'universalité et surtout de laisser chacun se définir soi-même. Parce que j'ai beaucoup souffert du fait qu'on me définisse à tort avec une définition incomplète. La plus grosse difficulté pour les gens qui sont jugés, étiquetés ou mis dans des cases, c'est ne pas avoir la définition précise de ce qu'ils sont. Et en même temps, l'intime de quelqu'un, c'est lié à sa personne et à ce qu'il renvoie. Donc c'est pour ça qu'on vit de manière très violente quand on est étiqueté de la mauvaise manière. Je parle beaucoup. Hein.
Non, mais on sent que c'est un sujet qui vous tient profondément à cœur et on comprend pourquoi. Alors, si je vous demande quelle a été la plus grande rencontre avec vous-même, c'était peut-être pendant le confinement, alors.
Mais honnêtement, oui. Et la manière dont j'ai vécu tout ça, et aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie réellement, et même mon entourage peut le voir, je ne me suis jamais sentie aussi solide qu'aujourd'hui.
Ouais, je vous trouve en forme, moi.
Ah, bah ça fait plaisir.
Alors tiens, justement, vous avez choisi un homme, et j'en ai un assez épanoui en face de moi, de Jérémy Frérot.
Ah oui, que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son album, je trouve très bien fait. Mmh. Il a aussi pas mal bossé avec Laurent Lamarca, avec qui j'ai travaillé, et c'est là que je trouve que le talent de Laurent Lamarca est inépuisable, c'est qu'il a fait des textes totalement différents avec Jérémy de ce qu'il a pu faire avec moi. Et je salue vraiment son travail, et j'aime beaucoup voilà, Jérémy Frérot. Je trouve qu'il a su... suite au duo qu'il était, Frérot de la Vega,
ouais,
c'est ça,
ouais.
Il a su vraiment rebondir, construire un univers, prendre le temps de faire quelque chose qui lui ressemble. Il y a quelque chose de très singulier dans ce qu'il fait, je trouve que c'est vachement bien.
Jérémy Frérot sur M Radio, c'est le choix de Christophe Willem.
Pour toi, c'est quoi un homme au pire, au mieux perdu? Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus.
Ce samedi à midi, Sophie Davant reçoit Christophe Willem sur M Radio.
Son dernier album, Panorama, est sorti le 16 septembre dernier. Il sera sur la scène de la salle Pleyel au mois de mars.
C'est ça.
Le 18 mars, voilà. Il sera sur la scène de la salle Pleyel et puis il y a une tournée après un peu partout en France. Christophe, on revient bien sûr sur votre parcours avant de parler en détail de ce dernier album. À quel moment vous vous produisez pour la première fois sur scène ?
Parce que je chantais dans une chorale.
Ouais.
Et il y a un festival de jazz à Enghien-les-Bains. Moi, j'ai grandi à côté d'Enghien-les-Bains. Et donc, j'ai dû chanter dans une chorale à Enghien-les-Bains avec cette chorale-là.
Et puis, vous êtes repérée pour participer à un film.
Alors, c'était une autre chorale. Mmh. Donc, c'était dans une MJC. Vous voyez, on était au fin fond du Val d'Oise. Et donc, la personne qui devait chanter le final, c'est une chorale d'adultes, n'était pas là. Donc, évidemment, moi, je connaissais les personnes, les choristes qui étaient là parce que j'avais déjà remplacé cette personne sur d'autres concerts. Et personne ne voulait chanter, donc j'ai chanté la chanson de fin. Et à ce moment-là, quelqu'un est venu me voir et me dit « Écoutez, voilà, on fait un casting sauvage pour un film qui s'appelait Alive. Et on aimerait beaucoup vous avoir, c'est un film musical, il faut vraiment qu'on ait des gens qui chantent. » Et moi, je n'étais pas du tout intéressée, rapport à tout ce qu'on a évoqué avant. J'étais vraiment dans une logique de longer les murs et absolument pas me faire remarquer. Et il a insisté. Et il se trouve que 3 mois après, il a obtenu mon numéro de téléphone par des choristes qui étaient là. Et il m'a rappelé. J'ai été pris et je me suis retrouvée dans ce film. Et ce film, le tournage se termine. Moi, je suis retournée à la fac directement en disant « Bon, bah, c'était sympa les mecs, mais enfin bon, j'ai autre chose à faire, donc merci et au revoir. » Donc, ça s'est passé un peu comme ça. Mais j'ai eu une expérience très marrante. C'est là d'ailleurs que j'ai noué une amitié réelle et solide avec Jennifer, parce qu'à l'époque, elle était elle était enceinte de Maxime Nucci, qui était le père de son fils. Donc c'est là qu'en fait j'ai rencontré Jennifer avant même de faire La Nouvelle Star, et qu'on a noué une amitié durant cette période-là.
Et alors, comment vous retrouvez au casting de La Nouvelle Star ?
C'était donc un an et demi après le film. Et ma sœur m'a inscrit à La Nouvelle Star à Toulouse. C'est pour ça que j'ai passé le casting à Toulouse, parce qu'elle habite aux environs d'Albi. Et elle m'a fait croire...
Parce que c'était complet à Paris, je crois.
Parce que je pense, oui. Moi, je n'avais pas voulu m'inscrire. Donc, d'autres amis ont voulu tester, sûrement. Et elle m'a fait croire que son mari, qu'elle était enceinte et que son mari était en déplacement. Alors, elle était bien enceinte, mais son mari n'était pas en déplacement. Et le lendemain matin, ils m'ont amené faire le casting. Et il y avait une file d'attente, mais interminable, pour faire ce casting. Et vous deviez absolument, pour passer dans la file d'attente, faire le casting. Et je les ai contraints, donc elle et son mari, à faire le casting, parce que je ne voulais pas faire tout seul la file d'attente.
Donc, et il chantait bien ?
J'ai aucune idée. Alors lui, il a dû chanter une chanson en portugais. Il est portugais, Pedro, il s'appelle. Donc je pense qu'il a fait un truc en portugais.
Ils n'ont pas été retenus.
Ils n'ont pas été retenus, non. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvée dans La Nouvelle Star.
Ne retiens pas tes larmes, c'est un peu l'enseignement de ce que vous avez... vécu pendant le confinement, qui a débouché sur cet album Panorama. C'est une chanson d'Amel Bent que vous avez choisie. Pourquoi ?
Amel, parce que dans ce métier, on dit souvent, on a rarement des amis solides. Amel, on a fait La Nouvelle Star à des périodes différentes, donc on n'était pas du tout dans la même saison. Et en même temps, on s'est beaucoup retrouvés sur les Restos du Cœur, aux Enfoirés. Et c'est quelqu'un que profondément j'aime, qui est très vrai, très honnête, et on a eu beaucoup, beaucoup de parallèles. Elle aussi, elle a eu une période un peu compliquée dans sa carrière, où elle essayait un peu de donner un second souffle, de voir comment aborder la suite de sa carrière à un moment, et on a beaucoup partagé, échangé là-dessus, et ça a été quelqu'un, une oreille vraiment très, très bienveillante.
Ne retiens pas tes larmes, Amel Bent, sur M Radio.
Ne retiens pas tes larmes, laisse aller.
Sophie Davant reçoit Christophe Willem jusqu'à 13h sur M Radio.
Comment vous l'avez vécu, cette expérience de La Nouvelle Star, puisque vous y êtes allé un peu contrarié ? Vous avez quand même savouré ou pas trop ?
L'émission, c'est un moment, c'est grisant en fait. C'est quelque chose qui arrive, je pense, une seule fois dans une vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est très très rare d'avoir d'autres exemples comme ça, où vous passez de l'anonymat le plus total à être connu de la France entière. Moi, c'est vrai qu'au moment de La Nouvelle Star, il n'y avait pas une personne, grosso modo, qui n'avait jamais regardé une fois l'émission.
Mais donc, est-ce que vous êtes resté vous-même ou est-ce que vous avez été emporté par ce flot ?
Non, je suis quand même, je pense que je suis... Après, on est toujours très mauvais juge nous concernant. Moi, je pense que je suis toujours resté moi-même. J'ai toujours eu le même entourage, les mêmes amis autour de moi. Après, peut-être qu'à un moment, je sais pas, je me suis sentie emballée par tout ça. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir la grosse tête, en revanche. Mais peut-être qu'effectivement, il y a peut-être eu un sentiment un peu de revanche, de me dire, bon, voilà, ça m'arrive parce que j'en ai tellement pris plein la gueule en avant. Et en même temps, bien malaki ne profite jamais. Donc, je pense que c'était pas non plus les bonnes raisons, c'était pas animé pour les bonnes choses, en fait.
On se sent quoi ? Aspiré dans un tourbillon qu'on ne maîtrise plus ?
Par contre, il y a des choses rétrospectivement comme ça que je ne revivrai pas du tout de la même manière. Moi, c'est vrai que les trois premières années, ça a été extrêmement intense. Et il y a des gens, voilà, je raconte ça souvent, mais j'ai des gens de ma famille qui sont décédés pendant cette période-là. Et je n'étais même pas aux enterrements parce que j'étais en train de faire telle télé ou un concert ou un truc. Et pour moi, il y a un moment où tout ça, c'est là qu'on voit qu'on vrille. C'est là qu'on voit qu'on est happé par un système et qu'on a la chance de faire un métier incroyable et qu'effectivement, des gens nous attendent aussi, effectivement, mais que ça ne peut pas être solide si la base et le socle ne sont pas stables. Et à un moment, la famille, les liens qu'on a, l'amour qu'on reçoit aussi de nos proches, il est primordial, en fait. Et donc, quand à un moment, on passe à côté de ça, c'est qu'il y a quand même un moment, quelque chose qui vrille, quoi.
Alors, Slimane, lui, c'est une machine à fabriquer des tubes. Lui, c'est impressionnant.
Mais c'est Jean-Jacques Goldman d'aujourd'hui.
C'est vrai.
Non, mais vraiment, je le pense sincèrement. Il a une capacité à retranscrire exactement ce que les artistes pour qui il travaille vivent ou ressentent. Il a une capacité de le faire, je pense, à Paix, je t'aime, parce que Paix, je t'aime, c'est un titre qui est faussement léger, en fait. Paix, je t'aime, ça raconte un peu tout ce désamour que j'ai ressenti. Et il arrive à faire danser les gens sur une chanson qui paraît très légère, que chacun peut s'approprier dans une histoire d'amour classique, alors qu'en fait, au fond, ça dit « Oui, je ne suis plus la même personne qu'avant, mais en fait, pourquoi vous m'avez abandonnés en chemin, en fait. Donc, c'est beaucoup plus profond que ce que ça paraît. Et ça, c'est la force de Slimane, je
mais
trouve incroyable.
Mais vous étiez proches tous les deux ou vous vous pas êtes vraiment tout. Rencontrés à l'occasion de cet album?
Alors, en fait, nous, on se côtoyait chaque année sur les Restos du Cœur. Mais voilà, on ne s'est pas revus en dehors des Restos du Cœur. Et quand on était au Restos du Cœur et qu'on discutait avec Amel, justement Amel Bent, qu'on a écouté tout à l'heure, et Slimane me dit, mais tu sais, en fait, moi, il parlait à Amel et moi, il dit, mais en fait, vous, vous êtes deux artistes que moi, j'ai vus à la télé. Et en fait, vous faites partie des artistes qui m'ont donné envie de faire ce métier en me disant « Mais regarde, ils font ce métier, j'ai envie de faire ça de la manière dont ils le font. » Et donc moi, c'était la première fois quand même que j'étais confrontée à quelqu'un qui a un succès incroyable et qui me disait « Mais tu sais que tu as été d'une certaine manière un exemple. » Donc je me suis dit, alors soit je me suis dit « Je prends un coup de vieux intersidéral, ça c'est clair. » Et en même temps, c'est hyper gratifiant d'un coup. Et lui m'a dit « Voilà, tu te rends pas compte que dans ma vie... » T'as eu une importance, mais dans la vie de celles et ceux qui t'écoutent, t'es lié à un souvenir, à une histoire qui leur est propre et t'es important dans la vie de certaines personnes. Et donc, ça a été un peu un électrochoc, cette discussion.
La recette, c'est la chanson que vous avez choisie de Slimane. On l'écoute et on est sur M Radio.
De quoi tu me parles ? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà.
Ce samedi à midi, Sophie Davant reçoit Christophe Willem sur M Radio.
Christophe Willem, je l'ai invité parce que un dernier album est sorti au mois de septembre, Panorama, un single qui a cartonné tout l'été. On revient là sur votre parcours, sur ce tourbillon, la nouvelle star. Vous dites que vous n'avez pas touché terre les trois premières années. Triomphe de votre premier album, disque de platine en France, plus de 900 000 exemplaires vendus.
C'était assez fou parce qu'il y avait Double Jeu en premier à la radio, puis après qui est resté numéro 1 pendant je crois 4-5 mois, et après c'est Jacques Addy qui a pris le relais. Donc il y a eu un moment, où, pendant au moins un an, un peu plus d'un an, où j'étais numéro 1 en radio. Et moi j'avais aucune idée de tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde ça avec des yeux émerveillés, de me dire mais c'est incroyable d'avoir vécu ça. Et moi à l'époque, on me disait mais tu te rends compte, la maison de disques, on me disait mais c'est incroyable, t'es numéro 1, on a vendu 1 million de disques. Et moi j'étais, vous voyez, tellement dehors de ce milieu, je dis mais enfin 1 million, c'est même pas la ville de Paris en termes d'habitants, c'est rien. Enfin moi je trouvais ça lambda en fait comme truc. J'avais aucune idée.
Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que c'est un métier ?
Alors oui, aujourd'hui je considère que c'est un métier, mais ça a mis le temps. Parce qu'en plus, j'ai fait ce métier pas par la bonne porte. Je veux dire, pour moi, quand vous êtes artiste, que vous gagnez un télécrochet, mais vous n'avez rien trimé. C'est-à-dire que pour moi, les artistes, c'est des gens qui triment, qu'on voit dans des bars, qui pendant des mois, voire des années, habitent dans des chambres de bonne. C'est saltimbanque, en fait. Vous arrivez dans une émission comme La Nouvelle Star ou The Voice ou Starac, vous arrivez tout de suite, vous avez le statut de star, en fait. Et les revenus, non, mais pour être très honnête. Donc d'un seul coup, vous vous retrouvez d'un coup propulsé dans un truc sans jamais avoir vraiment trimé pour ça. Donc il y a une espèce de, il y a un peu de la sensation d'être imposteur en fait pendant pas mal de temps. Alors après, l'album a cartonné, les albums précédents se sont quand même maintenus aussi. Donc au fur et à mesure du temps, vous endossez pleinement ce costume d'artiste. J'ai mis beaucoup de temps et je pense que l'échec de l'album précédent m'a fait prendre conscience que c'était un métier.
Vous êtes du genre angoissé quand vous terminez un album, que vous en avez fait la promo, que vous l'avez défendu sur scène, angoissé de vous dire est-ce que je vais à nouveau retrouver l'inspiration pour en faire un autre ?
Alors ça non, bizarrement non. Non, parce que moi, rien ne m'excite plus que l'inconnu. J'adore ça. En fait, justement, à la fin d'une tournée, il y a cette page blanche et ça va être... Quelle va être la source d'inspiration ? Est-ce que ça va être moi, donc comme l'album Panorama ? Est-ce que ça va être ce que je vais vivre, ce que je vais rencontrer ? Donc je suis très très excitée et j'adore justement ce moment où on se perd un peu. Moi vraiment, entre les deux albums, ce confinement, le fait de me retrouver chez mes parents, de plus être l'artiste mais le petit garçon de la famille et tout, d'un certain côté je me suis complètement perdue là-dedans. Et je trouve ça fascinant, en fait.
On va écouter le deuxième single de votre album qui est sorti hier, « Je tomberai pas ».
Ah oui.
Alors, qu'est-ce que vous diriez de ce titre ?
Ben, je trouve que c'est une bonne synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, en fait. Pour moi, c'est vrai que c'est un titre, donc c'est Laurent Lamarca, toujours, dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, « Je tomberai pas », c'est une ode à la résilience, en fait, justement. C'est de se dire « Je tomberai pas dans les mêmes travers, je tomberai pas dans le panneau, tout simplement, et je ne tomberai pas non plus, moi, dans le travers de devenir moi-même mon propre bourreau ». Quand on a été persécuté, quand on a été harcelé comme ça, moi, pendant longtemps, même connu, même adulte, je me suis interdit beaucoup de choses parce que moi-même, j'avais un regard beaucoup plus accusateur et je me jugeais beaucoup plus que la réalité de ce qui se passait. Et donc, je ne tomberais pas. Pour moi, il y a un petit côté, Il faut vivre les choses simplement, se détacher du regard des autres, mais aussi s'accorder de la bienveillance.
Se rendre grâce.
Se rendre grâce, exactement.
Je tomberai pas, c'est Christophe Willem, mais c'est sur M Radio.
Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution, j'attends pas la révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrais pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrais pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau. Personne à ma table, l'ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds, je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau, la galère se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur, je laisserai personne sur le carreau. Je tomberai pas.
Sophie Davant reçoit Christophe Willem jusqu'à 13h sur M Radio.
Christophe Willem qui vient nous parler de son dernier album Panorama qui est sorti au mois de septembre. 5 ans pour accoucher de cet album. Comment ça s'est passé? Alors vous nous parlez de l'auteur justement, d'un homme, de Jérémy Frérot. C'est lui qui vous a sollicité?
Alors non, du tout. Ce qui s'est passé, donc entre temps, entre ces deux albums aussi, Rio et Panorama, j'ai complètement changé d'équipe. Et donc... on est parti comme ça réellement à rencontrer tout un tas d'éditeurs. Alors les éditeurs, c'est des espèces de super méga managers qui gèrent des auteurs et des compositeurs, souvent dans des registres très déterminés. Et on est allé les rencontrer pratiquement un par un pour les convaincre que je voulais faire un album différent et que potentiellement il y a des artistes avec qui ils travaillaient, avec qui ce serait intéressant de travailler. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai rencontré Laurent Lamarca.
Donc alors il vous pose des questions, il vous...
Ah ben ça a été des mois et non mais réellement des mois et des mois. Donc moi j'avais réellement une thérapie d'un côté, donc pendant 5 ans j'étais vraiment avec une psy et je retournais en studio et je prolongeais la psychanalyse avec eux, en fait c'était assez hallucinant. Donc
et
on
là
parlait...
on continue.
Et là, on continue, vous voyez maintenant c'est dépassionné tout ça, parce que maintenant c'est totalement apaisé, donc c'est très bien. Ça a été des heures et des heures de discussion et je pense à Laurent justement, il y a une chanson qui s'appelle J'avance, hein, dont on parlait tout à l'heure, et Laurent qui ne me connaissait pas bien, il ne me connaissait qu'à travers le prisme de la télé et de la radio, et il me disait, bah, c'est marrant, je pensais que tu étais quelqu'un de plus lisse, d'un petit peu moins freestyle comme ça, et en fait dès que je te rencontre, je vois quelqu'un de complètement différent. Il me dit, d'une certaine manière, on a l'impression que qu'on te suive ou pas en tant que fan, tu suis un peu ton homme de chemin et t'avances. Il me dit, bah, j'aimerais bien que tu me dresses une liste de tout ce que tu as entendu sur toi jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et c'est comme ça que la chanson J'avance a vu le jour. Mmh. Et voilà un peu comment les titres avançaient. Naya, qui a signé Ni Reine Ni Roi, justement, qui dit que je ne veux pas choisir entre l'un ou l'autre, bah, c'est suite aussi à des discussions. Et donc, il y a eu un espèce de travail vraiment un peu d'orfèvrerie de tous ces auteurs-là. Et surtout, moi, qui du coup me suis retrouvée directeur artistique et qui ai fait la production exécutive de l'album, je tenais vraiment à ne pas du tout faire entendre les titres que je travaillais avec les unes et les uns ou les autres, parce que je voulais pas qu'à un moment il y ait un mimétisme ou l'envie de se dire « Ah tiens, s'il fait ça avec un tel, je vais un peu dans ce style-là ». Moi, je voulais vraiment prendre le meilleur de leurs talents à eux. Je pense à Cocoon aussi, par exemple, qui a signé deux titres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le son Cocoon, sa manière de... Donc, ça me ramenait à quelque chose qui m'était vraiment propre dans ma propre vie, en fait. Et ça, c'est un... Vous voyez, en en parlant, c'est un travail, mais que j'ai adoré faire.
Et vous n'avez pas été frustrée de ne rien écrire, justement, pour
du
une fois?
Du tout. Mais alors, pas du tout. Et c'est vrai que, bizarrement, ça m'a reprojetée à l'époque de La Nouvelle Star, justement, où j'étais interprète. Et donc, j'ai voulu aussi mettre en avant tous ces textes, parce que du coup, c'est les textes qui sont la vraie narration de cet album. Enfin, le fil conducteur, c'est la narration de l'album. Et j'ai vraiment mis ma voix au service de cette narration pour qu'on y accorde une importance différente et qu'on écoute l'homme et non pas le chanteur tout le temps dans tous les titres.
Merci, Christophe.
Mais merci beaucoup.
Donc, vous serez en concert le 18 mars à la salle Pléyel. Vous allez défendre votre album Panorama. On trouvera quoi d'ailleurs sur scène?
Sur scène, mais il y a l'équipe de live qui est avec moi, les musiciens. Là, on est en train de travailler sur tout le visuel. Donc, c'est la partie très excitante après où tout se matérialise. Donc, moi, j'ai très, 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 très hâte.
Merci d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup.
Retrouvez dès maintenant le podcast de Sophie Davant et son invité en intégralité sur mradio.fr.